France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Apprendre à trouver les mots justes, le programme Evars. Franck Burbage, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été professeur de philosophie, inspecteur général de philosophie, membre du Conseil supérieur des programmes, et vous êtes aujourd'hui membre de la Civise, ce qui est important pour ce dont nous allons parler aujourd'hui, car si je vous invite à l'antenne de l'Union rationaliste, c'est pour vous interroger sur le programme à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, publié au bulletin officiel jeudi 6 février et que vous avez copiloté pendant 2 ans. Ce programme, nous allons, si vous le voulez bien, le comprendre en rationaliste, même si la question n'exclut ni la sensibilité, ni l'imaginaire, ni l'émotion, tant il est vrai que les attaques ultra-violentes qu'il a connues en ont fait ressortir seulement quelques aspects, mais qu'elles ont méconnu et sa logique, et son esprit, et sa cohérence, et j'ajoute, sa délicatesse. Alors, il a été initié par le ministre Pap Ndiaye, qui, on le découvre au fil des jours, a fait beaucoup de choses importantes pendant son court ministère. Ce programme a été voulu dans un contexte où, on le sait, par le rapport de la Civise, 3 élèves en moyenne dans une classe de 30, ce qui me paraît un chiffre étonnant, sont victimes d'inceste, où la profusion des images pornographiques sur les écrans n'est accompagnée d'aucun commentaire. Qu'est-ce que, dans ce contexte, ce programme va permettre ? L'ouverture d'un espace de parole entre élèves et enseignants ou instituteurs ? La mise en place de mots pour dire ce qui est parfois vécu dans le silence ? Viol, abus sexuels, non-consentement ?
D'abord, j'ai copiloté le projet de programme au sein du Conseil supérieur des programmes. La fabrication d'un programme dans notre République scolaire, c'est un très long processus, à partir effectivement d'une lettre de saisine qui date de juin ou juillet 23. Et puis, c'est un très long processus. C'est pas sans rapport, d'ailleurs, avec la question de la raison, au sens de la raison partagée, enfin, de la raison démocratique, puisqu'à partir du moment où il y a un projet de programme, il est élaboré, et puis il est publié, il y a une consultation nationale, il y a tout un travail d'ajustement du texte, il y a à ce moment-là des discussions, il y a parfois des polémiques, et puis, progressivement, et là, je pense qu'on y est arrivé. Il y a quelque chose comme un consensus qui se fait autour d'un texte qui a fait la quasi-unanimité puisqu'il a été voté au Conseil supérieur de l'éducation sans aucune voix contre, avec simplement 7 abstentions et 60 voix pour, ce qui est dans l'histoire scolaire de ce pays extrêmement rare. Alors qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Je dirais d'abord, soyons prudents et ne pensons pas qu'on tient là une espèce de baguette magique. Mmh. Il faut en attendre le fait d'abord que nous avons désormais un cadre. Puisqu'on était jusqu'alors dans une sorte de paradoxe, puisque l'éducation à la sexualité était devenue obligatoire depuis 2001. C'était l'un des effets induits par la loi sur l'interruption volontaire de grossesse de 2001. C'était inscrit au code de l'éducation, mais il n'y avait pas de programme. Donc, c'est pas du tout qu'il ne se passait rien, mais il y avait une situation extrêmement disparate au sein du pays. Des endroits où des choses étaient faites, parfois très bien faites. Je crois qu'il faut rendre hommage aux infirmières scolaires qui ont vraiment pris leur part. Mais il y avait des endroits où il ne se passait rien. On estime à peu près à 85% des établissements scolaires au sein desquels il n'y avait rien. Ce qui, au fond, va dans le sens de ce que vous indiquez, c'est-à-dire des jeunes gens, des adolescents un peu laissés à eux-mêmes. Et puis, il y avait des endroits aussi dans lesquels il se passait des choses, je ne veux pas dire anormales, mais un petit peu hésitantes. Il y avait des équipes pédagogiques qui ne savaient pas trop de quoi il fallait parler. Il y avait des familles inquiètes, etc. Donc, le premier point, c'est qu'avec un programme, avec ce programme, on dispose d'un cadre de référence qui est susceptible, on l'espère, d'attirer l'intérêt des élèves, hein, puisqu'on commence en maternelle et on va jusqu'en terminale, mais aussi de rassurer à la fois les équipes pédagogiques qui vont avoir du grain à moudre, si je puis dire, en y travaillant suffisamment longtemps à l'avance, et puis aussi les familles. Donc la première chose, c'est ça. Nous avons désormais un cadre. Le deuxième point, me semble-t-il important, c'est que ce programme répond à l'idée que l'école a un rôle important à jouer. Mais je dirais dans sa tradition toute simple, à savoir l'école, c'est un lieu de culture. Ça veut dire que l'école n'est pas un sanctuaire, mais elle est quand même un endroit où on peut prendre le temps d'y penser, de cheminer dans les mots, vous en avez parlé, dans les idées, dans les gestes. Et on le fait à la fois soi-même en tant qu'élève, on le fait avec d'autres, il y a beaucoup aussi à apprendre des autres. On le fait avec l'accompagnement des professeurs, mais aussi et peut-être surtout, on le fait par la médiation de tous les apports d'instruction et de réflexion que l'école peut apporter. L'école, c'est le lieu de la culture, je veux dire, c'est le lieu où il y a des sciences, c'est le lieu où il y a des lettres, des arts, c'est le lieu où on peut laisser justement des espaces d'exploration, sans aucunement forcer les choses. Et ça, c'est extrêmement précieux, surtout dans une société où, comme vous l'avez dit, les choses vont très vite, hein, et notamment les jeunes gens sont bombardés de mots, d'images, de situations, il faut bien le dire, hyper-sexualisées, ce qui, d'une certaine manière, court-circuite dans une espèce de précipitation à laquelle il est très difficile de résister, leur cheminement propre et leur entrée progressive dans quelque chose qui fait quand même partie, en tout cas qui peut faire partie des choses heureuses de l'existence. Ce qui veut dire aussi que le programme, il essaye dans son contenu, mais on va en parler plus précisément, de marcher sur deux pieds. Il y a bien évidemment le pied de la mise en garde, mais il y a aussi le pied, et notamment par l'intermédiaire des sciences, des arts, des lettres, de ce qu'on pourrait appeler la vie heureuse ou la recherche du bonheur, une recherche à laquelle l'éducation à la sexualité peut contribuer.
Ce qui me semble très intelligent, Franck Burbage, et très philosophique dans ce programme, c'est à la fois sa progressivité à tous les niveaux, et dans le primaire, et au collège, et au lycée, et l'adaptation à chaque âge des notions qui sont centrales dans ce programme, la notion de consentement et celle d'intimité. Est-ce que vous pouvez éclairer ces points ?
Alors effectivement, le souci qui nous a guidés, puisqu'on a beaucoup travaillé, ça a été un travail interdisciplinaire, mais ça a aussi été un travail entre tous les degrés de l'éducation et aussi entre toutes les voies de formation, c'est de l'unité et de la progressivité. Ça va commencer en petite section de maternelle et ça va se terminer en terminale. Mais évidemment, on ne peut pas parler de la même chose et de la même manière. Donc le programme, il se structure autour de trois axes. Il y a un axe qui est en rapport avec le corps. Hein, on a appelé ça se connaître, vivre et grandir avec son corps. Il y a un deuxième axe qui donne l'unité autour de la relation avec les autres. Hein, rencontrer les autres, construire des relations, s'y épanouir. Et puis il y a un troisième axe. Trouver sa place dans la société, y être libre et responsable. Ce qui permet à la fois de donner de la cohérence à l'ensemble et d'ajuster les éléments de formation à l'âge des élèves. C'est évident, par exemple, que, et là, il faut pas, il y a même de la désinformation en ce moment sur cette question et c'est important de rectifier. On ne va pas parler immédiatement de sexualité en petite section de maternelle.
Bien sûr.
Il y a deux moments différenciés importants. Dans le premier degré, on parle de vie affective et relationnelle. Et à partir du collège seulement, on introduit la notion de sexualité, vie affective, relationnelle et à la sexualité. La notion de sexualité elle-même étant introduite en classe de quatrième et étant à ce moment-là élaborée avec des interrogations qui conviennent à cet âge-là. Vous voyez, là, on est dans le moment de la puberté ou même pour certains élèves un peu après la puberté. Donc là, on va pouvoir commencer à interroger cette notion, est-ce qu'elle est liée à la reproduction? Est-ce qu'elle est liée au plaisir? Qu'est-ce que ça signifie? Etc. Mais pour le plus jeune âge, on y va tout doucement. Et justement, on y va tout doucement en pensant qu'il y a des notions, comme vous disiez, extrêmement importantes, mais qui font l'objet d'un apprentissage patient. Et par exemple, la question du consentement, elle est redoutablement difficile. On va la travailler avec les élèves les plus jeunes, mais d'une manière qu'on pourrait dire détournée. C'est ça aussi l'école. Hein. L'école, c'est on prend son temps, on fait des détours. Est-ce que je pourrais avoir ce crayon rouge que tu tiens dans ta main ? Et est-ce que je vais te le prendre ? Ou est-ce que je vais te demander, pourrais-tu, s'il te plaît, me prêter ton crayon ? Et si tu ne me dis pas oui, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je te le prends quand même ? Est-ce que je te l'arrache, etc. Et si j'ai l'impression que tu ne me dis ni oui ni non, qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Est-ce que ça signifie qu'en réalité, tu es d'accord ? Vous voyez, là, on n'est pas en train de parler de sexualité, mais on est en train de commencer à réfléchir à ce que c'est que la violence, à ce que pourrait être la violence, et comment un travail avec le langage permet de contenir la violence et peut-être même de l'éviter. Tout ça, ça s'élabore patiemment, de même que s'élabore patiemment. Vous avez évoqué l'inceste, et effectivement, il y a énormément d'enfants. Et ça, merci à la Civise hein, d'avoir fait sortir cette question dans l'espace public. Il y a énormément d'enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles, ou même pire, hein, qui sont victimes de crimes sexuels. Mais c'est souvent au sein de la famille, c'est souvent avec des proches, c'est souvent dans des situations au sein desquelles les enfants ont énormément de mal à identifier leur propre malaise. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas à l'école directement d'aborder ces questions-là. Vous disiez un espace de parole, je dirais dans un premier temps, pas un espace de parole personnel. On va pas faire intrusion dans la vie intime des élèves. Même si les professeurs vont bien sûr être vigilants, hein, extrêmement attentifs au fait que peut-être pour certains élèves qui seraient dans des situations délicates, ces séances d'éducation à la vie affective et relationnelle pourraient être l'occasion sur le coup, ou peut-être dans les jours ou les semaines qui viennent, de révéler quelque chose. Mais dans un premier temps, il s'agit de travailler sur la question du bien-être ou du malaise. Quand est-ce que une situation est normale ? Quand est-ce qu'elle est anormale ? Devant qui je me déshabille ? Hein, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un me touche ? Est-ce que ce toucher me laisse bien à l'aise ? Est-ce que ce toucher me met mal à l'aise ? Tout ça, ça demande un certain apprentissage. Ça demande un certain parcours que les élèves font, on pourrait dire, qu'ils ne font pas si naturellement que ça, parce que ça a à voir aussi avec l'ordre symbolique, ça a à voir avec les mots pour le dire, et il est important, par exemple sur les parties du corps, que les professeurs puissent apporter aux enfants des mots précis, des mots justes, pour désigner les parties de leur propre corps, et pour appréhender, là aussi avec des mots justes, les sensations ou les perceptions hein, qui, pour certaines d'entre elles, sont anormales.
Je voulais vous demander, Franck Burbage, quelles ont été les difficultés de la tâche pour parvenir à ce programme ? Quelles susceptibilités ne fallait-il pas froisser ? Quels acteurs fallait-il convaincre ? Qui s'est sans cesse opposé ou qui vous a faciliter les choses ?
Alors j'aurais tendance à dire, mais vous n'allez pas me croire, que nous n'avons rencontré au fond aucune difficulté, ou presque aucune, en tout cas pas de grosses difficultés, à la fois au sein de l'institution scolaire, c'est-à-dire qu'il y a eu une contribution, un groupe de travail, un groupe d'élaboration d'un projet de programme, c'est le croisement d'expertises, le premier degré, le deuxième degré, plusieurs disciplines. On avait aussi la collaboration des infirmières scolaires. On avait aussi la collaboration d'une médecin. Enfin voilà, les choses ne sont, enfin sont, c'est extrêmement difficile à concevoir intellectuellement. Mais là, si vous voulez, il n'y a pas eu de difficulté particulière à part hein, le fait d'avoir à penser ensemble quelque chose qui n'avait jamais existé. Hein, c'est la première fois où il y a un programme d'éducation à la sexualité dans ce pays. Il y a eu énormément de consultations au sein du Conseil supérieur des programmes. Une quarantaine d'auditions, hein, avant même la consultation nationale. Oui. Et là, on a vu apparaître à la fois des propositions extrêmement intéressantes, des points de consensus et des points de dissensus. Et parmi les points de consensus qui nous ont beaucoup guidés, il y avait la demande, alors là vraiment partagée par tout le monde, ça nous a étonnés, d'une interdisciplinarité beaucoup plus large que ce qui se faisait traditionnellement, où c'était beaucoup l'affaire des infirmières scolaires, ou des professeurs de sciences de la vie et de la terre, de biologie. Hein, et l'ensemble des personnes auditionnées ont dit leur souhait que justement, hein, il puisse y avoir une prise en compte disciplinaire plus large, qu'on fasse entrer les arts, les lettres, etc., dans une interprofessionnalité et une interdisciplinarité bien soutenue. Les inquiétudes sont assez faciles à circonscrire. Il y a une partie de la société française qui porte cette inquiétude que les familles puissent être dépossédées de quelque chose qui leur revient en premier ou même de manière exclusive. Donc ça a parfois un rapport avec ce qu'on pourrait appeler un certain traditionnalisme d'inspiration religieuse. Cette inquiétude, elle est apparue. Elle subsiste, je pense, encore. Et je pense qu'il faut aussi entendre cette inquiétude. Et il faut aussi considérer que cette inquiétude, au fond, elle est structurelle de l'histoire scolaire de notre République. L'école républicaine s'est construite sur le principe de laïcité. C'est-à-dire le fait qu'on n'allait pas inquiéter les familles dans leurs croyances, on allait les respecter et qu'à l'école, on allait se situer en complémentarité avec ce que les familles peuvent faire. Et c'est bien de cela, et la dernière version du programme est à l'équilibre de ce point de vue-là. Elle dit le droit des familles à être informées des objectifs annuels de cet apprentissage et en même temps, elle dit la liberté des professeurs, dans le cadre du programme, d'avoir l'inventivité didactique et pédagogique qui leur revient. Donc cette inquiétude-là, elle est présente, mais je pense qu'on y a répondu précisément.
Je vous remercie Franck Burbage. Je renvoie à ce programme paru maintenant au Journal officiel. Je renvoie aussi au dernier numéro de Raison présente sur la faiblesse et les résistances de l'état de droit. Je remercie à la technique Alex Dang, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la préparation Claire Poissignon et je vous dis au mois prochain.